Femmes, Radio Pleine Lune, les nouvelles sur 93.8 MHz. Afrique du Sud, Winnie Mandela face à la justice. La femme du leader noir a été inculpée pour sa participation à l'assassinat d'un adolescent en décembre 88. Un double chef d'accusation, et non des moindres, va valoir à Winnie Mandela les honneurs de la Cour suprême de Johannesburg. Enlèvement avec intention de commettre des voies de fait. La sentence peut aller jusqu'à la peine capitale. Elle a d'ailleurs déjà été prononcée dans la même affaire le mois dernier contre Jerry Richardson. Celui-ci, qui est l'ancien entraîneur du Mandela Football Club, a en effet été reconnu coupable de kidnapping, torture et assassinat sur la personne de Stumpy Sepey, un jeune militant anti-apartheid de 14 ans soupçonné d'avoir fourni des renseignements à la police. L'équipe de football, de genre un peu spécial, elle servait en fait de couverture aux gardes du corps de Winnie Mandela, décide alors de faire avouer Stumpy par tous les moyens. Celui-ci est arrêté en décembre 88 avec deux de ses amis, transporté sans ménagement dans la petite maison de briques d'Orlando West à Soweto, foyer de la famille Mandela. Un interrogatoire musclé lui arrache des confessions. Sans autre forme de procès, Jerry Richardson exécute ensuite Stumpy comme traître à la cause. Le corps du supplicié est découvert en janvier 89. L'enquête qui s'ensuit provoque l'une des plus graves crises du mouvement anti-apartheid. La résistance intérieure, presque unanime, désavoue Winnie Mandela qui y perd son titre de maire de la nation. Des heures éclatent entre ces footballeurs et certains comrades de Soweto. La maison d'Orlando est attaquée et brûlée par la jeunesse militante du township. Le procureur général de la région de Johannesburg a décidé de poursuivre Winnie Mandela sous 8 chefs d'inculpation. Elle comparaîtra devant la Cour suprême de Johannesburg le 24 septembre avec 7 autres personnes qui ont déjà été inculpées. Le procès aura lieu plus tard. Brésil, un rapport d'Amnesty International dénonce la multiplication des exécutions d'enfants dans les grandes villes brésiliennes, les coupables souvent des policiers. Il est 7h du soir, le 24 juillet 1990, Leandro ne supporte plus la montée de la nuit dans la favela de Roque de Caxias à Rio. Alors, avec 2 adolescents de son âge, il s'esquive en bus pour aller rôder dans les avenues. À 1h du matin, la police les surprend près du marché Saint-Sébastien. Si l'on en croit les forces de l'ordre, les enfants auraient cherché à briser une vitrine. On les fait grimper dans une voiture de patrouille. Les policiers ôtent les balles du barillet et s'amusent à jouer à la roulette russe. Puis ils introduisent une balle dans le revolver, puis 2, puis 3. Leandro en reçoit une en pleine poitrine. Les policiers l'abandonneront sur le trottoir. En dépit des efforts de ses copains pour l'emmener à l'hôpital, Leandro mourra d'une hémorragie interne. Coordinateur de la maison des mineurs et lui-même ancien gosse des rues, Volmer de Nascimento affirme que 427 enfants brésiliens ont été tués entre janvier 87 et septembre 88. Lui-même avait d'ailleurs commencé à inscrire sur un panneau les noms des 144 premières victimes, dont celui d'une fillette de 5 mois. Il a fini par s'arrêter en cours de route, la liste ne cessant de s'allonger. Ce n'est pas un hasard si les meurtriers d'enfants sont souvent des policiers. 80% d'entre eux sont eux-mêmes issus de milieux particulièrement défavorisés. Ils acceptent donc des petits boulots d'appoint, comme ces missions de protection demandées par les commerçants. Ces derniers sont les premières victimes des gosses abandonnés et affamés qui dérobent de la nourriture à l'étal. La police officielle prend les enfants et puis on les juge et on les relâche, affirment ceux qui ne supportent plus le climat d'insécurité des grandes villes brésiliennes. Alors, dans certains quartiers, on a recours à de véritables escadrons de la mort, formés d'anciens policiers ou même de flics en exercice, agissant en dehors de leur heure de service, qui traquent les enfants et les exécutent. Le plus souvent, ces expéditions se déroulent sans témoins. Il est donc difficile d'apporter des preuves. Les petites victimes sont enterrées dans des cimetières clandestins que l'on fait disparaître dès qu'ils sont découverts. pis, dans une des régions de Rio, certains enfants morts par balles sont adoptés par des parents de complaisance. On pourra ainsi retirer le plus légalement du monde leurs cadavres de l'Institut médico-légal et les enterrer sans enquête. Le Brésil, impuissant, écrasé par la crise, n'ose pas encore dévoiler officiellement ces assassinats qui lui font honte. Au moment où un rapport d'Amnesty International dénonce la multiplication de ces exécutions, c'est un silence qui peut difficilement durer. En Inde, de nouveau du côté des enfants, 400 enfants ouvriers de 5 à 14 ans ont remis une pétition au Premier ministre, lui demandant d'étiqueter les produits sortant de toutes les manufactures légales, fabriqués sans travail des enfants. Un rapport non publié de l'OMS, les effets de la pollution atmosphérique sur la santé des Européens. Un rapport consacré aux effets nocifs de la pollution de l'air en Europe sur la santé, rédigé par un groupe d'experts de l'OMS à l'intention d'un organe spécialisé de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe, devait rester confidentiel, mais quelques données ont filtré. L'étude de l'OMS porte sur quatre situations appelées par les experts « épisodes d'été », épisodes d'hiver, exposition de longue durée dans les zones urbaines et exposition de longue durée à des polluants multiples. Dans la plupart des cas, la pollution de l'air a pour source l'activité humaine, établissements industriels, chauffage domestique, incinération des ordures et circulation automobile. L'estimation des effets produits est souvent plus d'ordre qualitatif que quantitatif. En été, la pollution augmente, principalement sous l'influence du soleil par temps lourd et vent faible. Il se forme alors des concentrations importantes d'ozone. L'effet le plus immédiat est une forte concentration de cette substance provoquant des difficultés pour la respiration. C'est un symptôme annonciateur d'une inflammation du poumon qui, précisent les experts, risque de devenir chronique et irréversible si l'exposition se répète. En hiver, la pollution est caractérisée par de fortes concentrations de dioxyde de soufre durant les périodes de changement de temps et de vent relativement faibles. Elle peut provoquer des infections pulmonaires aiguës auxquelles seront particulièrement sensibles les personnes souffrant d'asthme ou celles atteintes d'une maladie cardiovasculaire. Les polluants peuvent en outre affecter les fonctions immunitaires et le système nerveux et se révèlent particulièrement nocifs pour les femmes enceintes. Enfin, lors de l'exposition prolongée à des polluants multiples, le rapport vise ici des métaux lourds tels que l'arsenic, le mercure, le plomb et le cadmium, ce dernier contenu dans le tabac étant doublement toxique chez les fumeurs, ceux-ci se déposent sur le sol et les récoltent et pénètrent dans l'organisme par inhalation ou par l'alimentation. Leur action peut être également cancérigène. Seule note encourageante du rapport, la réduction de la teneur en plomb des carburants dans certains pays a eu déjà pour effet la diminution de ce métal dans l'atmosphère et par conséquent dans les denrées alimentaires, d'où une moindre concentration de ce métal dans le sang relevée grâce à des enquêtes effectuées au sein de la communauté européenne. Les autres pays, concluent les experts, devraient mettre à profit cet exemple, à condition d'être informés sur les conséquences immédiates de la pollution sur la santé, comme y aiderait la diffusion par l'ONU de rapports de cette nature. En France, réacteur arrêté à Marcoule. Selon Contratome à Genève, on a frôlé Tchernobyl. Début septembre, le réacteur surgénérateur Phoenix de Marcoule en France a été arrêté d'urgence suite à un incident technique. Selon les autorités françaises, il s'agirait d'une répétition de trois autres arrêts survenus en 89 dans la même centrale. Pour l'organisation antinucléaire genevoise Contratome, l'incident d'un degré de gravité 2 sur une échelle qui en compte 6 est dû au passage d'une bulle de gaz aux alentours du centre du réacteur. Celui-ci aurait pu s'emballer et produire une catastrophe comparable à celle de Tchernobyl. Cet incident est la réplique exacte de ceux de 89 dont les causes avaient alors été élucidées et neutralisées par les experts. Contratome souligne l'irresponsabilité des autorités françaises et demande la fermeture de la centrale. D'autant que le surgénérateur Phoenix est un prototype qui a servi de modèle et de justificatif à un autre ballon d'essai, plus célèbre, celui-là, le Super Phoenix de Crémalville, lequel est actuellement arrêté en raison de la présence d'impuretés dans le réacteur susceptibles de former une poche de gaz et d'entraîner une explosion de type Tchernobyl. Situation potentiellement identique à celle de Marcoule, donc. Va-t-on fermer définitivement Super Phoenix? Ces dysfonctionnements non maîtrisés et à répétition constituent des dangers à l'échelle planétaire et pour Contratome, il est plus que jamais nécessaire d'interrompre les programmes nucléaires français et suisses, car leur premier n'inquiète pas le second, qui, selon ses experts, est sans danger. Suisse, opposition contre l'arrêté fédéral urgent sur l'asile. Le service de consultation pour les femmes turques et kurdes à Bâle illustre dans un communiqué par des exemples comment le nouvel arrêté urgent sur l'asile prive particulièrement les femmes persécutées, demandeuses d'asile, des moyens légaux nécessaires pour éviter leur expulsion. En voici quelques exemples. Madame X, victime d'un viol lors de sa détention dans son pays qu'elle a fui, a mis 6 mois après des échanges réguliers avec les animatrices du service balois pour en parler. Or, selon le nouvel arrêté, on attend de cette femme qu'elle fournisse tous les détails des tortures qu'elle a subies lors de l'interrogatoire qui doit avoir lieu 20 jours après le dépôt de sa demande d'asile. C'est sur la base de ces déclarations que les autorités suisses décideront d'entrer en matière ou pas. Un autre cas est celui d'une femme réfugiée qui se plaint de fortes douleurs de pieds qui sont dues, selon elle, aux tortures qu'elle a endurées dans son pays. Elle se rend chez plusieurs médecins qui examinent ses pieds et constatent que ses douleurs sont d'ordre psychosomatique. Ce n'est qu'après quelques mois qu'elle trouve enfin un médecin qui fait des radiographies et constate des lésions au niveau des os. Selon le nouvel arrêté, le temps n'aurait pas suffi à cette femme pour soumettre aux enquêteurs suisses un certificat médical attestant qu'elle a été victime de torture. Un autre exemple est celui d'une femme qui s'est enfuie de son mari qui la battait pour rejoindre des proches parents en Suisse. Ce n'est qu'à travers une longue procédure que les animatrices du centre de consultation pour femmes turques et kurdes ont réussi à ce que les autorités Suisse lui octroie un permis d'établissement pour raisons humanitaires. Avec le nouvel arrêté, ce sont les autorités qui décident ou non de l'octroi d'un permis humanitaire sans que la personne concernée puisse se constituer comme partie. Le service de consultation pour femmes turques et kurdes regrette que tous les efforts entrepris par des femmes de diverses organisations et même par les femmes du HCR pour rendre les autorités suisses attentives aux problèmes spécifiques que rencontrent les femmes et enfants qui constituent par ailleurs la grande majorité des réfugiés dans le monde sont restés vains. En effet, toutes les lois, arrêtés et rapports du département fédéral de justice et de police concernant l'asile n'abordent jamais les causes spécifiques de la fuite et l'exil des femmes et enfants, les considérant trop souvent comme des problèmes purement personnels. Un référendum contre l'arrêté urgent sur l'asile a été lancé et peut être signé jusqu'au 1er octobre. C'était les nouvelles de pleine lune 93.8 MHz. Et maintenant, un peu de musique. Nous allons écouter Terry Lynn Carrington qui joue de la batterie. Thank you. Radio Pleine Lune, 93.8 MHz. Nous écoutons Terryline Carrington. Je vous rappelle notre programme de ce soir. Le Memento de Marie-Ange va tout de suite arriver dans vos oreilles sur 93.8. Et après, à partir de 7h30, 8h, un grand débat autour du nucléaire. Trois femmes antinucléaires nous parleront de leur trajectoire, comment elles sont devenues antinucléaires. Donc, restez à l'écoute sur Onde Femme 93.8 MHz. Je vous rappelle que vous pouvez nous téléphoner pendant les émissions directes. Aujourd'hui, nos émissions directes dureront jusqu'à 21h. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, c'est le 50 40 51 41. 023 depuis Genève, 0033 depuis Delémont.
Love is funny. Or it's sad. Love is quiet. It's a good thing, or it's bad, but beautiful to take a chance. And if you fall, you fall. And I'm thinking, I wouldn't mind at all. Love is tearful. It's gay. Love's a problem, or it's play. It's a heartache. And I'm thinking, if you were mine, I'd never, never, never let you go. But that would be but beautiful. Thank you. that would be but beautiful.
Écoutions Shirley Storm sur Radio Pleine Lune 93.8 MHz et tout de suite le Memento.
Et bien voilà, que la lumière soit et la lumière fut. La lumière fut au point que nous voilà accompagnés pour un petit moment. Alors j'aimerais d'abord vous faire part de la communication qui nous transmet la maison. La maison nous annonce que nous donne son agenda. Le jeudi 20 septembre à 20h, débat sortir du nucléaire avait animé par Anne-Marie Brunner. Le week-end du 28, 29 et 30 septembre, la maison se transformera en cinéma de quartier pour un week-end cinéma-cinéma. Au programme, 8 films réalisés par des femmes. Les détails de la programmation figureront au tableau d'affichage dès le 26 septembre. Donc, pour en connaître davantage de détails sur ces réalisatrices, rendez-vous à la maison. Et je vous signale déjà que la soirée dansante aura lieu le samedi 6 octobre. Elle nous transmet aussi un communiqué en nous disant que l'Assemblée Générale a été fixée au jeudi 15 novembre à 20h, soit une année après celle qui avait eu lieu au boulevard Saint-Georges. Et le communiqué nous précise, il est temps maintenant de faire un bilan, de vous présenter les comptes et, selon les statuts de la maison, de procéder à l'élection du comité de gestion. À ce propos, nous vous informons d'ores et déjà que le comité actuel, pour des raisons propres à chacune de ses membres, ne désire pas se représenter pour l'année à venir. Il est bien entendu qu'il restera actif jusqu'à la fin du mois de décembre 1990. Cette décision implique que d'autres femmes prennent la relève afin qu'elles s'assurent le devenir de la maison en lui insufflant un esprit neuf et de nouvelles énergies. En une année, le centre femme, c'est-à-dire la maison, a vu son espace agrandi, son cadre embelli, ses énergies renouvelées et ses activités se diversifier. Il serait donc dommage de perdre cet acquis. Pratiquement, sachez qu'un comité se compose de 5 membres, au moins. Une présidente, une administrative, une trésorière, une secrétaire, une membre. Et que 3 d'entre elles doivent figurer sur le bail de la maison. Il a également charge d'assurer le maintien et le fonctionnement de la maison. Nous espérons vivement que certains d'entre vous seront tentés par cette aventure qui a pu nous donner beaucoup de joie.
Trovato l'assassino, andiamo, saltavo giù le 12 porte di Roma. Mettiamo giù le mura e andiamo, che proteggono l'assassino. E andiamo a trovare. E tramonti di luce rosa, guai a chi riposa, dov'è il mandante? Mandatelo a cercare, mi alzo la mattina, mi casca la casa, mi aggiro per la città, che quantità di gente pensante. Ma dove sarà il mandante? Ma che deserta, che abbandono, ci si ritrova tutti, è come andare in chiesa, a militare in piazza, ai campi d'ogni re.
Andiamo,
qui siamo noi, senza più frontiere, senza più nemici, forse abbiamo vinto, e non ce ne siamo accorti, anche qui tra la gente chiusa, le sue cappotti cari, ti abbraccio.